Dans le monde non juif, c'est une incompréhension totale. Lorsque nous parlons des sacrifices d'animaux, il commence à y avoir des lacunes. La seule chose que le monde non juif, en règle générale, a plus ou moins retenu, est que Yeshua, autrement dit Jésus, a été crucifié, est devenu la victime expiatoire, qu'il est l'agneau de Pessah, etc. Et c'est à cela que l'on associe le plus la dimension des sacrifices ou du sacrifice, alors que ça va en réalité beaucoup plus loin, parce que ce n'est pas la seule et unique chose. Alors c'est vrai que Vayikra est une paracha où on pourrait s'arrêter partout. Et c'est clair que c'est une paracha qui est fondamentale et importante. Elle est au début d'un livre de la Torah. Elle inaugure le troisième livre de la Torah. Et elle nous fait entrer dans tout ce que contiendra le livre de Vayikra, du Lévitique, traduit en français. Elle nous mènera dans tout ce qui est lié, et c'est vrai de près ou de loin, à la pratique, au rituel, à la sainteté de Dieu. Et en même temps, les rôles qui seront assignés au souverain sacrificateur, etc. Alors juste pour faire un petit récapitulatif avant, il nous faut nous rappeler que avant qu'on arrive à Vayikra, il y a eu la sortie d'Égypte. Et c'est cette sortie d'Égypte a inauguré, elle, la fête de Pessah. C'est Pessah qui a fait la sortie d'Égypte. Ce n'est pas la sortie d'Égypte qui est devenue importante en soi, c'est que la fête de Pessah est devenue le moment clé dans l'histoire des Hébreux, le moment de la libération de l'esclavage de l'Égypte. Et l'Éternel, après cette sortie d'Égypte, il faut bien comprendre le sens et le but de la sortie d'Égypte. Le but de la sortie d'Égypte, ce n'était pas simplement l'abolition de l'esclavage des Hébreux, de les rendre libres, de leur dire ben maintenant, la justice est accomplie, vous pouvez bénéficier, profiter pleinement de votre liberté, et puis, ciao Pantin. Non, l'Éternel libère de l'Égypte, et plus exactement de Pharaon, pour un but. Est-ce que vous savez lequel? Et c'est là que c'est très important. Ce n'est pas la sortie d'Égypte en elle-même, mais c'est comment vont-ils me servir? Et ils me serviront. Moi, l'Éternel. Et la question que l'on peut encore se poser, c'est « Mais comment puis-je servir Dieu ?» Mais en même temps, qui est ce Dieu que je dois servir? Pas seulement quel est son nom, et qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Est-ce qu'il peut enlever les malédictions? Est-ce qu'il peut enlever les mal des ojos? Est-ce qu'il peut abolir toutes les malédictions ancestrales et machin? Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est que l'Éternel va les conduire justement pour qu'ils apprennent à le servir, à quelque chose, à construire, comme il nous a été rappelé tout à l'heure, dans le désert, un mishkan, un tabernacle, une tente d'assignation, qu'on appelle plus exactement, la vraie étymologie, est la tente du lieu de rencontre, la tente où on se rencontre, où l'homme rencontre Dieu, où le fini et l'infini se côtoient d'un seul coup, où le temps s'arrête, où la dimension du temps n'a plus d'existence, n'a plus de réalité. Et je crois que c'est très, 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 très important. Pourquoi ? Parce qu'ils sont appelés, premièrement, avant de le servir, à construire le Mishkan. Et ça, ça a été tout le livre, pratiquement, sur un certain nombre de chapitres importants du livre des Shemot de l'Exode, ça a été construire la maison, l'habitation, ou le lieu où Dieu va résider. Et symboliquement, par extension, on peut dire comment Dieu va résider dans un être. Hein? Qu'est-ce que la présence de Dieu dans la vie ? d'un être. En quoi on peut la résumer? Et il y a ces paroles qui sont très claires de la part de l'Éternel, puisqu'il ne dit pas seulement ben, une maison commune, une maison où tout le monde peut habiter, une maison où on serait en colocation. Non. Il dit, ils me feront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux. Et littéralement, pour que je reste et demeure dans le centre de leur vie collective et par extension, afin que je demeure en eux. Donc en fait, il y a ces deux notions qui vont se dégager et c'est très important. Alors juste avant la construction du tabernacle, il y avait déjà des recommandations. Et on va faire une lecture juste en amont dans le livre des Shemot, justement. Et je suis convaincu que beaucoup ne l'ont jamais lu parce que c'est un des passages de la Torah que rarement dans mes contacts avec le peuple d'Israël, avec les rabbins ou autres, n'est mentionné. Mais pas plus chez les chrétiens. Donc on va lire un passage dans Exode 23 et à partir du verset 14. Avant même que tout ait pris forme, hein, trois fois par année, tu célébreras les fêtes en mon honneur, tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Quelles sont ces fêtes? Shavuot et Sukkot. Voilà. Shavuot et Sukkot, pas Rosh Hashana. Donc depuis la sortie d'Égypte, il y a trois fêtes solennelles qui ont une importance capitale. Trois fois par année, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel. Trois fois par année. Connaître les temps des rendez-vous avec Dieu. Les temps de sa présence dans l'année. D'avoir un calendrier qui nous amène à comprendre que Dieu a des rendez-vous. Et que Dieu n'est pas présent dans tous les rendez-vous humains. Mais lui donne des rendez-vous pour que l'homme soit présent dans son présent. Tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices de tes premiers fruits de la terre et tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. C'est maintenant que c'est important. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, car il ne pardonnera pas vos péchés. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange, deuxième point, hein, marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Éthiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Quand on dit qu'on est au Seigneur et qu'on se comporte comme les autres, il y a contradiction. Mais ce n'est pas le but. Mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours, etc., etc. Et il est très important, au verset 21, de comprendre que la traduction dit « Parce que en lui, d'écouter sa voix, pourquoi ?» Dieu n'a jamais dit à un être céleste d'être écouté, suivi, et d'avoir la capacité, un, de protéger, et d'avoir le même niveau de puissance et de pouvoir que l'Éternel. Donc il s'agit bien de quelqu'un que nous connaissons, mais qui est contesté dans beaucoup de domaines. Pourquoi ? Parce que ce passage n'est pas toujours intégré dans nos lectures. Mais il va plus loin, le texte original, il dit « Parce qu'en lui est mon nom. Vous l'écouterez parce qu'en lui, dans cet ange, est mon nom, mon chem demeure. Et quel est le nom de l'Éternel ? Yod, He, Vav, He. » Et on va le retrouver ensuite dans tous les écrits des prophètes, sous une forme, sous une autre, dans le livre de Hadassa d'Esther. On va le retrouver également en code. Et il faut bien comprendre qu'à un moment donné, voici, j'envoie un ange, c'est exactement le même message que celui que le prophète Malachi a donné. Voici, j'envoie mon messager, parce que ange et messager, c'est le même terme. Et j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin. Et donc, c'est très important de le retenir parce que mon nom est en lui. Cet ange porte le nom de l'Éternel et aucune autre créature céleste, quel que soit son rang, sa dignité, sa position, sa fonction, ne porte le nom de l'Éternel. Il y a quelque chose là-dedans que nous devons comprendre parce que dans ce que nous avons lu, nous avons résumé toute la pratique. Tout ce que l'Éternel demande, c'est qu'on le serve et qu'on ne serve pas les idoles, mais qu'au contraire, on détruise les statues, qu'on comprenne le sens des rendez-vous dans l'année avec l'Éternel. Et en même temps, il nous amène à réaliser que tout cela se fera, se réalisera dans le peuple d'Israël premièrement, mais également au travers du Mashiach, de celui qui portera le nom de l'Éternel. Et il est intéressant de voir que si nous comprenons que tout le but est là-dedans, mais finalement, qu'est-ce que nous n'aurions pas obligatoirement toujours compris ? Alors c'est vrai que quand on fait l'étude approfondie du Talmud, ou quand on est dans le Midrash, etc., on comprend qu'il y a une exigence de la part de l'Éternel qui va se résumer à un mot que très peu de monde aime, parce qu'ils ne le comprennent pas dans le sens que l'Éternel le conçoit, c'est l'obéissance. Et nous allons voir que l'obéissance est la clé de la bracha, de la bénédiction. Et nous trouvons 18 fois dans le livre, 18 fois dans le livre des Shemot, que Moshe a fait comme l'Éternel a dit. Et c'est ce que nous appelons, nous, dans notre approche, premièrement, la conformité. La conformité à l'Éternel, à ce qu'il demande. Et pas d'avoir une adaptation de compréhension à ce que Dieu demande. Très souvent, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais je trouve un peu fantaisiste parfois comment certains leaders, pour dire comme ça, certains leaders aménagent à leur gré la manière dont on doit servir Dieu. Et où on évacue telle chose, on n'explique pas telle autre, et puis finalement ce qui est important c'est la spontanéité, le cœur, mais qui ne rend pas conforme aux exigences. Il y a eu un Mishkan, il y a un temple qui sera construit, un Beth Amikdash, et il y aura le temple de Zorobabel, le temple du millénium, et le temple, celui qui n'est pas construit de main d'homme, qui est Yeshua. Il y a donc une conformité que l'Éternel attend, comme l'Éternel l'avait commandé à Moshe. Et c'est les chapitres 39 à 40 où vous pouvez trouver vraiment toutes ces obéissances que l'Éternel a demandées. Alors imaginons un instant, un court instant. Si Moshe n'avait pas eu le souci de la conformité et qu'il aurait été fantaisiste et dire « mais cette couleur, je n'aime pas. J'aime pas la couleur bleue. J'ai envie de mettre une couleur gay, fashion. » Ça se dit comme ça maintenant. Quelque chose qui flash, qui est, comme on dit, pétant. Et il dit, mais c'est plus joli, c'est plus harmonieux. Seigneur, tu t'es trompé dans les couleurs. Tu donnes des couleurs qui sont sombres. Et tu vas nous mettre dans un lieu sombre. Écoute, on pourrait aménager un abat-jour. Alors imaginons que Moshe aurait été fantaisiste. Vous savez ce qui se serait passé immédiatement? Il n'y aurait plus rien eu. Tout se serait arrêté. Donc l'obéissance est bien une clé dans la bénédiction. Mais en même temps, elle nous amène à réaliser que c'est quand il y a eu cette conformité, cette obéissance aux prescriptions, aux détails, aux coudées, aux mesures, aux millimètres près. L'obéissance allait jusqu'au respect de chaque dimension de la construction. Pas simplement les couleurs ou le global. Nous, nous voulons toujours voir globalement. Puis après, on trie si on veut. Non, là, il allait. Il y avait 70 colonnes. Oh, ça, ce serait intéressant. Et il y avait toutes sortes de choses. Mais tout avait un but. Tout est un but dans la rédemption. Dieu s'incarne dans le peuple d'Israël parce qu'il lui donne une valeur de rédemption dans la temporalité qui, elle, ne connaît pas la dimension du salut et de la rédemption. Et c'est pourquoi c'était important d'avoir la conformité. En même temps, cette obéissance a fait que l'élément qui va se distinguer de toutes les autres choses dans l'histoire des hommes, dans toute même, je vais aller jusque-là à dire, par rapport à différents types de religions, c'est la présence de Dieu au travers de la nuée. La nuée qui est venue et qui a rempli le Mishkan, qui l'a littéralement, en hébreu, littéralement recouvert de lui. Le Mishkan a été totalement recouvert. Ce n'était pas un simple petit filet couvert. Et ça veut dire que, à ce moment-là, quand la nuée a couvert le Mishkan, c'est la gloire. C'est ce qu'on traduit par présence de Dieu, c'est la gloire, la Shrina. Quand la Shrina était là, le poids de ce qui est éternel a englouti la temporalité, et la rédemption ne se trouve pas dans ce qui est temporel, dans ce qui est limité, mais dans ce qui est éternel. Et c'est le présent de Dieu. C'est là que Dieu devient réellement le présent. Lui qui est éternel, il n'a pas de notion de temps. Il ne peut pas vous dire quel jour on est. C'est nous qui devons avoir une horloge avec des indications, parce que nous savons que chaque 24 heures, nous vieillissons, qu'on le veuille ou pas. Chaque 24 heures qui passe, chaque fois que tu dis, t'es content d'avoir fini ta journée de travail, sache que tu vieillis. Mais oui. Tu rajeunis pas parce que tu es pris, englouti dans un processus qui détruit, dans une destruction de ta vie. Et c'est ça la temporalité. Et la dimension éternelle, eh bien, c'est que justement le présent de Dieu, c'est que lui n'est pas ce que l'on appelle dans les expressions grecques immortel. Il est infini. Il n'a ni commencement ni fin. Mais en même temps, il n'a pas de calendrier. Il n'a pas d'horloge. Il n'est pas là en train de dire, pourtant, il y a une chose étonnante, c'est que Dieu fixe des dates, des mois, des périodes, des saisons. Il dit, le 14 de Nissan, c'est Pessah. Comment l'Éternel va-t-il connaître 14 Nissan? Parce qu'il sait que dans ce temps-là, même si ça met des siècles, c'est dans ce temps-là qu'il avait prévu. Dieu connaît tous les temps. Les temps passés, les temps présents, les temps futurs. Alors en même temps, la construction du Mishkan, si on l'a bien compris, c'était que réside, qu'habite le nom de Dieu, la présence de Dieu, ce qu'il est dans ce qu'il représente, c'est-à-dire la dimension éternelle. À partir de là, on voit que si cette présence du Seigneur au milieu de son peuple était importante et fondamentale, mais elle n'était pas seulement unique. Et qu'il nous faut bien aller plus loin. Et il y a une deuxième étape qui était liée à celle du Mishkan, c'est celle de son fonctionnement. Pourquoi un Mishkan? On aurait pu dire, et je suis convaincu que le 3 quarts, sinon 99,9, 0,5%, aurait dit, Seigneur, c'est beau. Il y a la maison, il y a toi, c'est beau. Et puis, ah, et on regarde la maison. Et on arrête comme ça. Je suis convaincu, dès que quelqu'un dit qu'il a vu quelque chose de là, ah, il est arrivé. Ah, pause. Eh bien, il faut savoir que ça va beaucoup plus loin que ça, parce que le but de la construction du Mishkan, même si tous les éléments parlent de la rédemption, eh bien, c'est toute la relation avec le Mishkan qui va se faire, et donc avec le temple, et même de Yeshua avec le temple. La relation de Yeshua et le temple est indissociable. La relation des prophètes avec le temple est indissociable. Le nom de l'Éternel, le lieu, est indissociable. Et c'est quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce qu'il nous parle de son fonctionnement. Et donc, ce que beaucoup n'ont pas compris et qui ont mis en opposition, c'est justement ce fonctionnement par rapport à la Torah, par rapport à ce que beaucoup de leaders préconisent en disant le salut par l'évangile, la grâce. Mais je sais pertinemment et je suis convaincu, et je sais que j'ai eu quelques échos quand même, qu'il y a plein de gens qui ne comprennent rien, mais rien, de chez rien, mais ils font semblant d'avoir compris. Mais je vais vous dire une chose, nous, dans notre monde rabbinique, ne fais pas semblant, dis que tu n'as pas compris. Ce n'est pas une honte de ne pas avoir compris. Moi, j'ai mis des années avant de comprendre, mais parce que je ne comprenais rien. Alors, j'ai fait comme vous, j'ai fait semblant. Mais à force de faire semblant, je n'avais plus rien. Et je crois que c'est important parce que parfois on dit « oui, j'ai été sauvé ». Puis quand on pose des questions, ben, en quoi ça consiste ? Viens à l'église, allez, va dans l'église. Et ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est autre chose, c'est beaucoup plus que ça. Donc le fonctionnement, c'est de savoir qu'il y avait une relation avec des intermédiaires. Premièrement, il y avait le Mishkan qui contenait l'Arche de l'Alliance, la présence de Dieu, la Ménorah, etc. J'en avais déjà parlé. Et surtout, ce qu'il nous faut voir, celui qui officiait dedans était le Kohen Agadol, donc le souverain sacrificateur. Et puis ensuite, il y avait toute la relation avec le peuple. Et le souverain sacrificateur était entre les deux, et etc. Mais la différence qui va nous amener maintenant à comprendre pourquoi le Mishkan, eh bien, il est dans le livre que nous avons entre les mains du premier chapitre du Lévitique de Vaïkra, et qui nous montre finalement le but du fonctionnement. Et en hébreu, le jeu de mots est très fort parce qu'il ne dit pas simplement que c'est la dimension comment s'approcher de Dieu. Parce que le Mishkan est là pour nous montrer que la présence sainte, la présence de Dieu est là, mais comment vais-je la toucher ? Et quelles sont les normes qui vont faire que je peux me trouver ou être accepté dans sa présence ? Alors il y a cette notion de s'approcher, mais le terme hébreu, il va lui aussi plus loin parce qu'il nous dit que ce n'est pas simplement s'approcher, mais c'est se rapprocher. Et la différence entre l'intimité et la familiarité. Il y a beaucoup de personnes, quand ils parlent à Dieu, ils parlent à un copain, à quelqu'un qui est presque banal, à qui ils donnent des ordres, avec qui ils n'ont pas une relation de respect, ou quelque part ils sont même négligents, ou ils lui disent des mots que finalement n'auraient même pas le droit d'employer. Ça s'appelle la légèreté, la familiarité. Et vous savez, c'est exactement la même chose dans les relations humaines. Quelqu'un qui est trop familier, il n'est pas intime. Quelqu'un qui est familier, il est léger ou légère. Il n'est pas profond, il n'est pas vrai, il est superficiel. Quelqu'un qui est malheureusement dans cette dimension, il ne va jamais créer une relation profonde. Mais quelqu'un qui est respectueux et quelqu'un qui est davantage dans cette dimension, dans cette réalité de l'intimité, de créer une relation réelle et forte, il va être dans le respect. Et il va davantage éviter d'être dans la légèreté, la vulgarité, les gestes excessifs, hein, déplacés parfois. Et il va respecter la personne qui est avec. Et il va créer une relation. Et c'est ça, se rapprocher. Se rapprocher, c'est justement être le plus près possible de la vraie personne qui est en face, et non pas d'être dans sa périphérie. Et aujourd'hui, malheureusement, ce que l'on pourrait dire, il y a beaucoup de croyants périphériques. Il y a beaucoup de monde qui pense que de toute façon, rien n'a d'importance. Ce qui est important, c'est « Allez, t'es un croyant !» Et puis, voilà. Et les relations sont superficielles. Et le Seigneur veut aller plus loin. Alors, le premier verset, maintenant qu'on a ça dans la tête et dans le cœur, et la pensée, on peut aller dans le cœur de l'ensemble des choses. Le premier verset de Vaïkra, c'est « Il appela, mais il appela qui ?» Moshé. Si on le lit, regardez, hein. L'Éternel appela Moshé de la tente d'assignation. Dieu l'appelle d'un lieu, d'un endroit précis. Et il n'appelle pas n'importe où, dans n'importe quel coin de rue du désert. Il ne l'appelle pas de n'importe quel caillou. Il appelle de la tente d'assignation. Et il lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël, etc. Et tout un tas de choses vont découler de là. Mais tout vient de ce « Il appela Moshé » de la tente d'assignation. Et il est vrai que quand on lit dans la Torah, dans le texte original, il y a une anomalie dans l'écriture. Et cette anomalie se trouve dans la dernière lettre de Vaïkra, dans le Aleph, qui écrit plus petit que les autres lettres. Et on pourrait se dire, mais pourquoi ? Est-ce que c'est une erreur ? Et est-ce qu'il a eu une baisse de la vue ? Il a eu un bourdon qui a passé ? On ne sait pas. C'est vrai, des fois, on peut faire des fautes bêtes comme ça. Est-ce qu'il était fatigué ? Il a eu une conjonctivite du désert ? Ou je ne sais pas. Non, ce n'est pas une erreur. Et il y a à d'autres endroits où les lettres sont même grossies, agrandies. Et elles ont toutes un but. Elles ont toutes une raison d'être. Et dans Vaïkra, le Aleph est écrit plus petit que la normale. Et quelque part, on ne pourrait pas vraiment comprendre le but profond. Mais il y a un sens. C'est que Vaïkra est très proche du terme Vaïkar. Vaïkar qui veut dire « il se présenta ». Il appela et Vaïkar, le jeu de mots qui se met avec, c'est que Moshé se présenta. Et se présenter en hébreu, ce n'est pas simplement « Je m'appelle Moïse, je suis né le 26 décembre, non, le 25 décembre. » Et donc, Vaïkar, c'est « il se présenta ». Et se présenter, ça veut dire dans la forme la plus respectueuse de sa présence, du Saint béni soit-il. C'est dans le respect le plus total, le plus concret, le plus solennel. C'est pas « Ah, enfin, je te... voilà hein ». Non, vraiment. Alors, ce Aleph, en même temps, il a un deuxième mystère, parce que, étant écrit plus petit, si nous prenons dans nos traditions rabbiniques, elle va nous dire que le Aleph est à la base de toute la construction du monde. La lettre Aleph n'a pas de son. Elle est imprononçable. On la lit, mais sans la lire. On ne peut pas lui donner un son. On ne peut pas lui donner une signification par un son. Il faut qu'elle soit accompagnée. Elle ne peut pas être seule. Un Aleph tout seul, c'est un Aleph tout seul. Et en même temps, le Aleph est dans sa signification importante. Pourquoi ? Parce que Aleph veut dire aussi le bœuf, tout ce qui va se rapporter à la notion de sacrifice, etc. Donc cette lettre muette, elle ne se prononce que lorsqu'il y a un son qui peut être accompagné par une autre lettre ou une voyelle. Et à partir de là, le Aleph devient prononçable. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce que notre connaissance de Dieu, elle ne doit pas reposer sur quelque chose qui est inaudible. C'est-à-dire, il y en a qui disent qu'ils entendent Dieu parler, mais ils n'ont même pas de son. Vous savez, les films muets des années 30, ils ont les images, mais pas le son. Et Dieu leur a parlé, et ils disent. Mais ça, non. C'est vrai que, quelque part, quelle est la voix de Dieu ? Quelle est l'identité vocale ? Nous disons tous, à un moment donné ou à un autre dans notre vie, « Dieu m'a parlé ». Mais quelle est son identité vocale ? Tu l'as enregistré ? Eh oui, non mais ça paraît un peu agressif, mais quelque part, hein ? Alors, regardez. Ce que cela veut dire, c'est que le Aleph nous amène à comprendre que oui, il n'y a pas de son s'il n'est pas accompagné. Mais il veut dire, par là même, que c'est la base de l'écoute, de notre écoute. Et il se présenta dans ce Vaïkra, dans ce Aleph, dans l'écoute. C'est-à-dire dans quelque chose qu'il va intérioriser. Mais l'hébreu va encore plus loin et il dit, il a mémorisé dans son présent pour le futur. Il mémorise dans le moment ce qui va devenir futur. Et le danger, c'est de l'amnésie dans laquelle vivent les croyants. Ils ne se rappellent jamais de rien. Hein, Dieu leur a dit ça il y a quelques mois, puis d'un seul coup, Dieu leur parle, il faut qu'ils changent de direction, puis ils rechangent de direction parce que Dieu leur donne une autre direction, parce que Dieu ne sait pas où il va, quoi. Donc, à un moment donné, obligatoirement, il y a des choses qui peuvent nous amener à ne pas avoir confiance dans ce que la personne préconise. Mais lorsque nous nous mettons dans l'écoute, elle nous interpelle par cette question, mais comment est-ce que je vais écouter ? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Comment je vais être dans le Shema ? Dans quelque chose où je ne peux pas voir celui qui parle. Dans le sens où je ne peux pas entendre s'il ne me donne pas le moyen d'être la voyelle, d'entendre sa voix. Et il y a une relation que l'on peut faire et que beaucoup de gens ne font pas. Et elle se trouve, même si elle a été beaucoup romancée, cette notion, dans nombre de prédications, d'écrits, de commentaires, tout le monde connaît cela. Quand il est parlé dans le psaume 23 de l'Éternel est notre berger. Et Yeshua va dire aussi, à un moment donné, dans Jean 10, qu'il est le bon berger. Et qu'est-ce qu'il dit ? Que ses brebis, elles connaissent le son. Il y a quelque chose d'audible. Elles connaissent le son de sa voix. Mais elles l'entendent. Et ça, ça va plus loin. Ce n'est pas la familiarisation du son, c'est qu'elles entendent, elles ont mémorisé, intériorisé le présent et le futur de cette voix. Et c'est ce que l'Éternel disait, et que Yeshua n'a cessé de reprendre. Si mes paroles, si mes dvarim sont dans votre intérieur, dans votre cœur, je suis en vous. Si mes paroles et mes mitzvot, mes commandements sont en vous, je suis en vous. Mais enlever ces deux choses, qu'est-ce qui reste ? L'absence. L'absence, c'est l'oubli. C'est l'amnésie. C'est ne plus avoir le sens de l'histoire. L'incompréhension du passé qui fait qu'il n'y a pas de futur. Ce qui fait qu'on est dans l'inconnu de l'inconnu de l'inconnu du futur. Et c'est là le danger de l'errance. Elles connaissent ma voix. Il y a des sons, des voix qui ne sont pas du Seigneur. Et on peut se réclamer de lui. Il y a aujourd'hui un tas de gens qui disent que Dieu leur a parlé, que Dieu a voulu ça et qu'ils se nomment prophètes, apôtres. Et il faut bien comprendre que seule la voix de Emmet, le son qui est accompagné d'une voyelle, de ce Aleph qui est la première lettre de l'alphabet hébreu et qui se termine par le Tav et avec la lettre intermédiaire qui est le même, ça donne Emmet, ça donne la vérité, le vrai. Et quand tu inverses les lettres, quand tu fais Mot, ça veut dire mort. Ça veut dire qu'il y a l'absence, le chaos, le vide. Et qu'il n'y a rien d'autre derrière. Ça veut dire qu'il n'y a pas de futur, il n'y a pas de possibilité de projection dans quelque chose de réel. Et on va plus loin. Parce que quand on réalise à ce niveau-là, seule la voix de l'Éternel, la voix du Emet, comme le disait autant Yeshua que Moshe, que David, que l'Éternel lui-même, elle nous amène à savoir que il n'y a qu'une seule voix, VOX, qui est vraie. Mais alors les autres voix, la voix de Bilam, c'est la voix du faux prophète. Et la voix des faux prophètes, c'est une imitation. C'est une imitation du vrai, mais ce n'est pas le vrai. C'était comme il y avait une publicité, j'aimais bien quand j'étais gamin, Canada Dry, pour frimer, je prenais du Canada Dry, pour faire croire aux copains, je buvais l'alcool. Et donc, vous comprenez bien que l'imitation, un imitateur, c'est quelqu'un qui peut être presque à la perfection. Mais ce n'est pas lui. il y a une imitation de la voix. Et c'est pourquoi il y a la vraie prophétie, qui est contenue, qui est canonisée, mais qui en même temps a été reconnue comme étant venant de Dieu, étant la voix, la parole, le davar de Dieu, la parole de Dieu qui s'incarne dans le temps, dans le présent. Et il y a celle qui détourne. Et c'est là où justement nous devons être très prudents, parce que lorsque on commence à écouter les autres voix, eh bien à ce moment-là on croit qu'on est dans le vrai, mais on suit le faux, on pratique le faux. Et c'est tout le but de l'idolâtrie, c'est de se créer une image, une divinité. Donc un faux prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de quelqu'un en se réclamant du nom de quelqu'un sans lui appartenir, pour détourner. Alors il y a beaucoup de choses que vous pouvez entendre, beaucoup de choses que vous pouvez voir, mais seuls ceux qui connaissent le son. Et ça va plus loin, parce que dans l'une des fêtes qui va être caractéristique des temps de la fin, de la finalité des temps, est la fête des chauffarim. Quand il est dit que c'est au son du chauffard, Thessaloniciens, pour vous donner les références dans le Nouveau Testament pour certains, dans 1 Thessaloniciens 4,16, au son de la trompette, mais ce n'est pas la trompette, c'est au son du chauffard. Regardez la puissance du son. Qu'est-ce qu'elle va faire ?
Ressusciter les morts.
Qu'est-ce que tu comprends de la résurrection ? Qu'est-ce que c'est la résurrection ? 99% des croyants ne peuvent pas répondre à cette question. Ils ne savent pas. Ils vont habiter là-haut. Ça, ils savent. Mais ils ne savent pas répondre à la question. Et quand on leur dit, mais réponds à la question. Je vais là-haut. Mais ce n'est pas simplement ça. C'est de dire en quoi ça consiste, la différence entre la résurrection et la réincarnation. C'est pas simplement de dire, il y a des sectes. Et puis tu ne sais même pas en quoi ils croient, ni même comment leur répondre. Et quand nous abordons cette question, nous l'abordons dans la profondeur de sa signification, de son sens. Et c'est pourquoi il est fondamental pour chacun de nous de savoir que il y a, et Paul le relève correctement à des moments, qu'il y a des faux enseignants, des faux prophètes qui viendront, qui séduiront, qui détourneront. Mais celui qui est comme Moshe, celui qui est dans la conformité, celui qui est dans la norme, il discerne, c'est-à-dire qu'il sépare les voix des voix. Il les distingue. Et le prophète peut dire, lui, il est faux. Et regardez comment on peut être très vite séduit. C'est la question du discours, le contenu du discours. Jérémie, Yirmaïou, lorsqu'il parle aux enfants d'Israël et qu'il leur dit, ce que vous faites est mal. Imaginez, je viens, bon, je suis là, mais bon, je vais dans un autre endroit. Admettons que le Seigneur me revête, ce qui arrive souvent, et à un moment donné, on dit ce qui ne va pas. On dénonce. Et c'est clair qu'on aime mieux le discours qui rassure, qui fait du bien, qui fait plaisir, qui nous laisse tranquilles dans notre mal, qui ne nous dérange pas trop tout en étant conscient qu'on n'est pas bien dans sa peau et qu'on est dans la culpabilité. Mais c'est ça le discours. C'est qu'il ne délivre pas. Il nous laisse enfermés. Mais il ne nous dérange pas. Il ne fait pas appel à nous sur quoi que ce soit. Mais lorsque la vraie parole de l'Éternel vient et commence à dire ce que tu as entendu, ce que tu as vu, ce que tu crois, ce que tu dis être de Dieu, n'est pas de Dieu. D'un seul coup, alors là, t'es qui ? Et on a besoin de revenir à l'écoute de sa voix. Et lorsqu'on revient à l'écoute de sa voix, eh bien à ce moment-là, il se passe ce qui doit se passer, c'est que immédiatement il y a une dénonciation. Et le faux prophète, dans le temps de Yirmaïou, c'est qu'il est venu avec l'inverse. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas des prophètes, ce n'étaient pas obligatoirement des gens malhonnêtes. Mais quand Yirmaïou va dire des choses très dures par rapport au futur d'Israël, va dire, attention, dans ce que vous faites maintenant, voilà ce qui va vous arriver si vous continuez comme ça. Mais on n'aime pas ce discours. Qui est-ce qu'il aime ce discours ? Personne. Personne. On voudrait l'évacuer. On voudrait l'évacuer le plus loin possible et le plus rapidement. Parce que ça nous dérange. Alors, les autres arrivent et disent, « Oui, tu vas voir, comme Anania, on brise, on casse, et l'Éternel va nous donner la victoire, et l'Éternel va nous faire triompher. » Et comprenez qu'au temps de Yirmayou, ces faux prophètes qui se voulaient rassurants, pourquoi ne pas les suivre? Et le peuple a préféré suivre cette voie. Et la conséquence a été là. Les faux prophètes ont toujours un but de détournement. Mais on veut aller plus loin. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que dans Vaïkra, pour écouter Dieu, pour entendre sa voix, le son de sa voix dans la Torah, comment Dieu parle-t-il dans ce livre? Et qu'est-ce que ce livre doit m'enseigner? Je crois, comme beaucoup disent, je crois en toute la Bible, mais je crois seulement en des parties. Je crois plus en d'autres parties qu'à une partie. Et non, c'est la Torah, le socle et le fondement. Et donc, elle nous amène à comprendre que c'est tout le livre en entier qui s'appelle Vaïkra. Il appela, il se présenta, afin que nous puissions répondre à son appel pour que nous ayons un accès au Mishkan. Et entrer dans le Mishkan de notre Moed, de notre période, de notre temps, pour que nous puissions entrer maintenant. Et pas simplement être dans l'extérieur, dans une attente. Et je crois que c'est dans notre passage sur terre que nous devons comprendre ces paroles que Paul donnait d'ailleurs. À un moment donné, qu'est-ce que c'est construire ou bâtir ou s'édifier dans le salut? Moi, j'emploie les termes que vous connaissez, qui ne sont pas mes termes hébreux à moi, mais qui sont les termes que vous connaissez, vous, avec lesquels vous êtes le plus familier. De construire son salut, c'est quoi? Je suis sauvé et après, c'est quoi? Et c'est là qu'on rejoint Vaïkra. C'est là qu'on rejoint Vaïkra, parce que ce n'est pas simplement d'être sauvé, ce qu'on appelle être sauvé, d'être passé de la mort à la vie, d'avoir vécu la sortie de l'Égypte, d'avoir connu justement cette libération, de passer de la mort à la vie. Mais après, il y a quoi? Quelle est la continuité de cette vie? C'est là que Vaïkra entre en matière. Entrer dans le Mishkan, c'est aussi comprendre qu'à un moment donné, Paul nous dit de construire notre salut avec crainte et tremblement. Que c'est quand même, et Paul est un rabbin, ce n'est pas un apôtre au sens moderne du terme. Bien comprendre que Paul n'a jamais connu l'Église telle que nous la connaissons là, et encore moins avec l'identité de Constantin ou de Luther. Il est du premier siècle. Il est de quelques années après Yeshua. Il est dans une période où ça n'existait pas, tous ces dogmes. Et il dit bien que s'il faut construire avec crainte et tremblement, il pense au Mishkan. Il est imprégné de tout ce qu'il a étudié au pied de Gamaliel. Et il nous dit aussi que notre corps est le temple de l'esprit. Quand il en parle, quand il prend le Beth Amikdash, et qu'il dit que notre corps, ce que nous représentons extérieurement, mais qu'à l'intérieur est la vie, et que c'est à l'intérieur que, finalement, nous allons découvrir le temple, et que Dieu va habiter non pas dans l'extérieur, à l'extérieur de nous, mais qu'il veut résider à l'intérieur. Eh bien, il y a des choses qui sont en relation, il y a trois verbes. Premièrement, le Mishkan, au travers de Vaïkra, va nous enseigner toutes les lois de la purification. Purifions-nous. Sanctifions-nous. Comment sanctifier le nom de l'Éternel? Et en même temps, sans la sanctification, est-il écrit, nul ne verra le Seigneur. Alors il y en a qui ont cru qu'il fallait devenir des épouvantails pour ça. Il fallait mettre tout un tas d'accoutrements. Non, la sanctification c'est autre chose, c'est une transformation intérieure profonde. Et approchons-nous de Dieu. Alors, si on veut aller plus loin maintenant, je vais prendre quelques références dans Éphésiens. C'est des passages qui vont nous révéler, alors je ne sais pas si on peut le dire comme ça vraiment, mais je pense l'identité rabbinique de Paul. Parce que je peux dire en tant que juif, par rapport à certaines choses, il y a eu quand même certaines souffrances dans les interprétations où on a fait de Paul l'ennemi d'Israël. On a fait de Paul celui qui amène la controverse, la polémique, et qui n'est pas, comment dire, conséquent. Alors, on va lire le verset 7. J'ai pas dit le chapitre ? 1. Commençons par le commencement. En lui, nous avons, alors écoutez bien, la rédemption par son sang. Pourquoi ? Le sang. Le pardon des péchés. Alors, il y a deux termes. Premièrement, il y a le terme rédemption. Et le deuxième, pardon des péchés. Et pas du péché. Des, c'est un pluriel, même en grec. Selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Donc la volonté de Dieu est un mystère. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses dans le Mashiach, dans le Messie, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ça, c'est le Aleph. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré dans le Messie. C'est là le verset 13 aussi que je veux appuyer, le 7 et le 13 surtout. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la Bessora Tova, l'évangile de la bonne nouvelle, de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption. Waouh ! Il faut comprendre ce que ça veut dire chez Paul, rédemption. Je ne vais pas vous l'expliquer maintenant parce que c'est trop merveilleux et ça demanderait beaucoup de temps. Mais on le fera, puisqu'on va étudier le Mishkan. De ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des shlechim, des envoyés, pour être littéral, et des prophètes, Yeshua HaMashiach lui-même étant la pierre angulaire, les roches Pina. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève, etc., pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. On commence un peu à comprendre. Éphésiens 4, 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté et joint à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Messie, Mashiach. Parce que beaucoup ne savent même pas ce que ça veut dire Christ, dans ce cas-là. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Yeshua, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. 5.1. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Là, ce n'est pas interdit. Comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour. À l'exemple du Messie qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. N'est-il pas en relation avec le Mishkan ? Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alors, il y aurait beaucoup encore de versets. Mais si on veut, en quelque sorte, nous approcher du Seigneur, c'est que ces approches, comme le dit Paul à un moment donné, c'est que autrefois nous étions, mais maintenant nous sommes. Et tout le but de Vaïkra, c'est de dire, vous étiez esclaves en Égypte, et maintenant vous êtes libres. Vous êtes un peuple libre, mais en quoi va consister cette liberté ? Est-ce que cette liberté va être liée au fait que vous allez édicter vos propres lois ? Vos propres mœurs, vos propres normes, vos propres systèmes sociaux. Aujourd'hui, tout le système politique qui est présent dans l'Europe, malheureusement, est un pouvoir qui rejette Dieu. Et ils se réjouissent et ils se... Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une concurrence entre la laïcité et la religion en France. Vous aviez vu ça? Eh bien, il y a quelque chose de terrible. C'est qu'ils veulent faire... Maintenant, la laïcité veut faire de plus en plus d'incroyants. Donc, ils font une forme d'évangélisation à l'envers. Mais c'est vrai. Je peux vous le dire, par rapport à certains intellectuels, ils ont un objectif. C'est d'enlever la notion de sacré afin d'amener cette chose-là. Donc, et puis d'un autre côté, comment on va faire connaître le Seigneur? Autrefois, nous étions lumière. Et tous ces passages nous amènent à faire la compréhension entre la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance. On ne peut pas les dissocier. Et ceux qui dissocient sont amputés, sont dans l'erreur la plus totale. Yeshua est l'agneau de Pessah, la victime expiatoire. Il est aussi notre souverain sacrificateur. Qui aurait donné le titre dans l'Épître aux Hébreux de Yeshua ressuscité, assis à la droite de Dieu, ayant une fonction de souverain sacrificateur, sans qu'on sache à quoi ça correspond? Et quel est le sens? Et souverain sacrificateur, c'est la notion, écoutez bien, de résurrection. Il est mort, agneau, victime expiatoire, mais il ressuscite souverain sacrificateur. Assis à la droite. Et il reviendra. C'est parce qu'il est souverain sacrificateur qu'il reviendra en roi. Il faut comprendre la dimension. Yeshua est le Davar Elohim, il est la parole faite chair, il est la prophétie. Il est l'accomplissement de toutes les paroles prophétiques. Il est l'accomplissement de la Torah et des prophètes. Et deuxièmement, il est le souverain sacrificateur. Il est dans le temps intermédiaire entre le moment où il a accompli Pessah et le moment où il va revenir établir son royaume, tel qu'il a été annoncé. Et c'est ce temps intermédiaire, le temps de la grâce. C'est le temps du souverain sacrificateur. Ce n'est pas la grâce en opposition à la loi. Ce n'est pas la grâce, et même si on n'y comprend rien, parce que quand des fois on demande, pardonnez-moi de vous bousculer avec ça, mais c'est vrai que des fois vous parlez de grâce comme vous parlez de chocolat. Sans savoir quels ingrédients il y a là-dedans. Hein ? Combien savent ce qu'il y a dans du chocolat ? Et pourtant tu vas dire, c'est bon le chocolat, mais il y a du poison là-dedans. Enfin, pas tout le chocolat, non, j'ai pas pris un bon exemple. Il est la parole, le son, la voix, les brebis entendent. Deux, il est le souverain sacrificateur régnant dans les lieux célestes jusqu'au moment où il viendra régner à Yerushalayim et accomplira la fête de Sukkot. Ce sont les trois temps, les trois moèdes, les trois périodes de fête, les trois temps de rendez-vous que nous trouvons et que nous avons lus tout à l'heure, en lui et son nom. Et ça, c'est très important. Je voudrais juste peut-être conclure sur la notion de « constitue vraiment Vaïkra ». Alors, je vais dire deux choses. Premièrement, dans le Aleph, c'est que nous trouvons justement une lettre formée en trois. Une qui va sur le haut, une qui va sur le bas, et une barre qui est un vav transversal, intermédiaire, qui sépare le haut et le bas. Et il nous faut savoir que c'est toute la dimension du fini par rapport à l'infini. Nous pouvons passer d'une dimension à une autre dimension, mais pour cela, il nous faut le moyen intermédiaire. Le moyen intermédiaire, c'est toute la raison d'être du Mishkan ou du Beth Amikdash et qui entre en matière dans notre compréhension. Et il y a une deuxième chose sur laquelle je ne vais pas trop m'étaler, mais qui est importante, c'est la notion de sacrifice. Lorsque nous parlons de sacrifice, on a l'impression que c'est quelque chose de terrible. Quand on dit « sacrifie-toi pour l'autre », quand on demande à l'autre de faire un effort, c'est lui demander un sacrifice. Et vous avez vu la réaction de l'autre? Toi, change d'abord, moi après. Et c'est ça qui est important. La notion de sacrifice, qu'est-ce que ça veut dire apporter un sacrifice sur l'autel? Et l'autel qui a des bases, qui a des fondements, je pourrais parler de tout ça, sur lequel on établit, il y a l'autel d'or, l'autel des parfums, mais il y a aussi l'autel des holocaustes, du holà. Et je crois que c'est très important parce que Adam qui yakriv mikem, c'est lorsqu'une personne d'entre vous apportera une offrande, eh bien, ce d'entre vous a une signification profonde. Il nous enseigne une chose, c'est qu'en offrant sur l'autel l'animal, en fait, c'est nous que nous offrons. C'est pourquoi il y a quelque chose à comprendre. Ce n'est pas simplement le fait d'utiliser une bête et de la mettre sur l'autel et puis dire ben, « on va tout régulariser, ça va être bien ». Non, c'est dans la conscience profonde que normalement, le jugement que Dieu ferait tomber sur nous, ce serait ce jugement-là, la mort. Et la grâce, elle est là. Alors pour ceux qui disent qu'il n'y a pas la grâce dans le peuple d'Israël et que les pasteurs en prennent pour leur grade, la grâce, elle est là. D'abord, Dieu a manifesté sa grâce. Et il a donné mais, tellement de sacrifices, mais pour toutes les situations. Toutes. Et à chaque fois, pour que le pardon, la réconciliation, l'unité et la présence de Dieu soient préservées dans le sein de son peuple, afin que la bénédiction demeure. Mais alors, on va plus loin, parce que ce que nous devrions dire par rapport à même la paracha, c'est d'élever ce niveau en disant que sur l'autel, en fait, ce que nous offrons dans l'animal, c'est en fait notre animal intérieur, notre être mauvais, que nous sacrifions pour devenir bon, pour être restauré dans le bon, dans la bonté de Dieu. Alors on va faire une lecture et qui va nous montrer pourquoi Paul, finalement, à des moments, nous en parle comme cela. Romains 12, 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable, saint, à l'Éternel, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Mais en fait, c'est un service. C'est la manière de servir Dieu. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Et vous voyez que là, on est dans quelque chose de très clair, de très simple. C'est que même Paul utilise « offrez à Dieu vos corps ». Mais je ne sais pas comment vous l'entendez-vous, comment il résonne dans votre cœur, comment il vous est enseigné. On a compris que c'est des efforts à faire, peut-être des choses à donner. Mais Paul va plus loin. Il dit « véritablement, mets-toi toi sur l'autel ». C'est-à-dire que si tu veux vraiment servir l'Éternel, c'est que toi, ta vieille nature, la nature qui est mauvaise, celle qui est un interdit en quelque sorte, n'existe plus. Et Paul nous amène à comprendre que c'est justement là ce qui va être agréable à l'Éternel, comme ça l'était quand on faisait le holà, l'agréable odeur. L'agréable odeur à l'Éternel, c'était quoi le sacrifice de holà, l'holocauste? Eh bien, c'était qu'on offrait l'animal dans son entier, c'est-à-dire en hébreu, on va dire l'extérieur avec l'intérieur en une pièce, et pas en pièces détachées. Comprenez, c'est très important, en entier. Et Paul dit exactement la chose, devenez un holà, pour qu'il y ait une odeur agréable à l'Éternel. Et c'est ça se donner. C'est ça se donner au Seigneur. Ce n'est pas simplement, Seigneur, je te donne, et je reprendrai. Et puis quand j'irai mieux, je te donne, mais quand je vais mal, je reprends. C'est très différent. Alors, pour conclure, on va dire que le terme en hébreu pour les sacrifices, c'est Corban. Mais la racine de Corban, c'est Kirouv, et qui se traduit par rapprocher. Kirouv, Kirouv. Et vous comprenez que le sacrifice, c'est ce qui nous rapproche. C'est quand on fait le don de nous-mêmes, lorsque véritablement on s'offre, qu'à ce moment-là, on est rapproché de Dieu, et que Dieu s'approche de nous. Dans Hébreux 10, vous pouvez le lire, nous avons donc un accès auprès de Dieu, à cause de son sacrifice. C'est lui qui, par son sacrifice, ouvre la route et rend accessible la présence de Dieu aux non-juifs. Il faut bien le comprendre dans l'Épître aux Hébreux, qui est vraiment un hébreu. Et que cette route, qui était inaccessible à n'importe quel païen, à n'importe quel goy, est devenue possible sur la base de Yeshua HaMashiach. Et que ce n'est pas par un messie grec, ce n'est pas par un espèce de sauveur à la romaine venant de Constantin, fabriqué de toutes pièces par Léonard de Vinci et les autres, que nous avons accès à Dieu, mais par le Messie hébreu, né d'une vierge, d'une halma, et qui est juif. Ce qui veut dire que lorsque, quelque part, nous devenons, nous, le Corban, comme le Paul le dit, dans son épître. Ce n'est plus à comprendre par le fait qu'on offre les animaux, mais que vraiment, nous, on devient responsable et que c'est uniquement à cause du Messie que nous pouvons être pardonnés, rétablis. Parce qu'aujourd'hui, la lacune d'Israël, c'est qu'il n'y a plus le Beth Amikdash. On l'a remplacé par les prières, mais ce n'est pas suffisant. Et le Moussaf, un très vieux Moussaf, et les prières nous indiquent que justement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à Yom Kippour, par exemple. Et c'est pourquoi la conformité va être l'identification au Mashiach, à lui. Et c'est là qu'à un moment donné, on l'a très bien lu au travers d'autres passages, c'est là que le mystère de sa volonté, autrement dit, de notre futur, nous sera révélé. Autrement, on ne connaît pas. Alors, faites très attention parce que dans cette recherche-là, il y a un danger, c'est de devenir médium. Beaucoup d'anciens pasteurs qui disent avoir des dons ont été médiums avant. C'est Simon les magiciens, vous comprenez ? Alors, il y en a qui n'aimeraient pas que je parle comme ça. Mais il y en a marre aujourd'hui du cinéma. Il y en a marre de la tromperie et des faux et de ceux qui disent voir et qui voient rien, qui voient l'imaginaire de leur imaginaire, leur aspiration. Et c'est pourquoi, si nous voulons, selon les normes de Vaïkra, servir l'Éternel, le Dieu saint et tout-puissant, le vrai Dieu, en s'écartant de toutes les formes idolâtres, de tout ce qui a été monté, de tout ce qui a établi l'idolâtrie au-dessus de Dieu, est à bannir, à prescrire. Et c'est en revenant à une pratique, à une conformité, que là nous appliquons les commandements. Et là je suis d'accord dans le sens que tout Israël nous amène à la compréhension de l'application des commandements, des mitzvot de l'Éternel. Parce qu'il n'y a pas 36 voies, il n'y a pas une voie grecque et une voie juive, une voie catholique romaine, une voie protestante, une voie méthodiste, une voie anglicane, une voie ménonite, une voie quakers, protestant américain. Il y a un Messie avec un seul nom qui a été donné. Et c'est lui qui réunira tous les fils d'Abraham, Ishmaël et Israël. Ils ne se feront plus la guerre. Pour l'instant, c'est conflictuel. Il faut bien utiliser le terme. Conflictuel. Parce qu'il y a conflit spirituel et identitaire. Mais Dieu nous amènera dans la réconciliation. Alors que l'Éternel vous bénisse.